Bonjour Pierrion.
Bonjour.
Nous nous situons dans votre exploitation agricole d'élevage à Sainte-Eulalie-en-Royan, à la ferme des Bataillons, située sur la route éponyme, on peut dire dans les confins de Sainte-Eulalie-en-Royan. Et nous venons vous visiter à propos d'un concours des pratiques agroécologiques, le concours des prairies fleuries, avec la Chambre d'agriculture qui donne un côté de pilotage avec le parc naturel régional du Vercors. Pour commencer, peut-être faisons un petit portrait de la ferme des Bataillons avant de rejoindre les prairies.
C'est une ferme d'élevage où j'élève des brebis allaitantes, on appelle ça. Donc allaitantes, c'est à destination de la viande. J'ai aussi depuis un an quelques génisses. Donc le bâtiment est à Sainte-Eulalie, j'ai quelques terres à Sainte-Eulalie, mais après je me suis installé petit à petit en récupérant des terres petit à petit et je pâture sur une dizaine de communes différentes, côté Isère et côté Dromois, du coup Choranche, Châtelus, et ça va jusqu'à Lente en montagne. J'ai à peu près un peu entre 100 et 150 brebis. Et actuellement, comme surface, c'est autour de 45 hectares. Elles sont toutes en herbe, je ne fais pas de culture, c'est que du fourrage et que de l'herbe. Et ce qui est un peu particulier, c'est que mes brebis sont toute l'année dehors, on appelle ça en plein air intégral dans le jargon technique, sauf au moment de l'annulage, où je les rentre en bâtiment pour avoir une meilleure surveillance, pour voilà, bien gérer tout ce qui est les naissances. Mais sinon, elles sont toute l'année dehors, et du coup, il y en a certaines qui passent toute l'année dehors si elles annulent pas en hiver. C'est l'annulage qu'on appelle le moment de la mise bas pour les brebis. Et comme autre particularité, ce qui fait que pour moi, la ressource fourragère de l'herbe est très importante et assez technique, c'est que dans la plupart des systèmes, on nourrit les animaux à l'herbe, mais aussi avec du grain ou du concentré, on appelle ça. Moi, j'ai opté pour un autre système parce que ça me convenait dans la façon de faire et aussi économiquement. Et elles sont que à l'herbe, que 100% à l'herbe. D'où, du coup, une gestion assez technique de la ressource herbagère, parce qu'elle est vitale pour mon exploitation.
Voilà, une ressource assez fine dans la manière de la gérer. Alors justement, vous étiez 8 agriculteurs ce 21 septembre 2024 à Vassieu-en-Vercors pour justement obtenir la remise des prix. Plusieurs prix ont été attribués, en fait, deux prix principaux, la fauche prioritaire, qui a donc été une distinction pour le GAEC de Magny, et pâturage exclusif, le premier prix qui vous est revenu. Pâturage exclusif, on va y revenir un peu plus précisément, mais tout d'abord, de manière générique, qu'appelle-t-on une prairie fleurie? Que définit-on par une prairie fleurie, si ce n'est qu'on voit des fleurs, mais qu'est-ce que cela recèle-t-il?
Eh ben, le parc du Vercors a candidaté selon deux critères, du coup le pâturage exclusif, celui pour lequel j'ai candidaté, et la fauche, mais après il peut y en avoir d'autres, parce qu'il faut savoir que ce concours-là, dans un premier temps, c'est local. Chaque parc ou chaque voilà peut présenter des concours et avoir des gagnants. Et ensuite, les dossiers sont envoyés à Paris pour le concours au Salon de l'Agriculture. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a pas que ces deux-là, il y en a d'autres aussi. Mais pour être plus clair, prairie fleurie, selon le cahier des charges de ce concours-là, c'est une prairie déjà qui est spontanée. La flore, faut qu'elle soit spontanée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de semer. Il faut qu'elle ait un fort intérêt floristique et faunistique. Là, en l'occurrence, il y a un cahier des charges avec un certain nombre de fleurs qui sont remarquables et qui sont indicatrices d'un milieu en bon état. Et donc, on parcourt la parcelle et il faut en avoir le plus possible. Et aussi des espèces remarquables comme les orchidées. Mais ça ne comporte pas que le côté flore, c'est-à-dire qu'il y a aussi le côté faune qui est pris en compte. Une prairie fleurie, c'est une prairie qui est spontanée et qui a un fort intérêt écologique et agricole.
Voilà, on est dans le domaine de la biodiversité, aussi sous le chapeau de l'agriculture et l'alimentation. C'est ce qui donne plusieurs caractéristiques, déjà aux animaux qui broutent, et puis ensuite au-delà, dans le cycle de l'alimentation.
Tout à fait. Le fait qu'il y ait ces ressources-là, c'est absolument indispensable. Et je suppose que le fait qu'il y ait une grande diversité, ça un impact sur la santé des animaux, sur le goût. Alors après, moi, j'ai pas fait d'études à ce sujet-là, et bon, je peux pas le. Mais on peut supposer que ça l'a. Par contre, moi, je vois clairement un intérêt à ce qui est de la diversité, parce que dans un milieu qui change, avec des années caniculaires et secs, des années très humides, comme on les a vues ces deux dernières années, et ben, le fait que la ressource soit spontanée, ça veut dire qu'elle est là depuis très longtemps, enfin, ces espèces-là. Quelque part, elles sont adaptées à leur milieu. Est-ce que c'est un milieu sec? Est-ce que c'est un sol drainant, un sol lourd, argileux? Voilà, elles sont adaptées à ce milieu-là. Et quelque part, c'est un peu une assurance par rapport aux aléas climatiques, dans le sens où, eh ben, bon an, mal an, elle arrivera toujours à produire, il y aura toujours quelque chose d'intéressant à en faire. Alors que c'est vrai que une prairie semée, ben, c'est plus productif, hein, on ne peut pas le nier, mais ça coûte aussi plus cher à l'implantation. Et aussi, ben, en fonction des aléas climatiques ou de la durée de vie de cette prairie, clairement, elle tire moins bien son épingle du jeu qu'une prairie spontanée.
Toutes les prairies, finalement, ne peuvent pas être dites fleuries si elles ont eu d'autres, dans le passé, d'autres modes d'exploitation ?
Ben, tout à fait, en fait. À la fois, l'agriculteur, il faut qu'il ait de bonnes pratiques pour que le potentiel puisse s'exprimer, on va dire. Mais en même temps, il y en a certaines. Moi, j'ai certaines parcelles. Donc, effectivement, à ce propos-là, on propose pour le concours une parcelle en particulier, une prairie en particulier. Ce n'est pas l'ensemble de l'exploitation qui est noté. Et moi, j'ai d'autres parcelles où, bah, je ne sais pas, peut-être c'est à cause de pratiques antérieures, culturales ou d'élevage.
D'herbicides, pourquoi pas ?
Pourquoi pas d'herbicides ? Enfin, en tout cas, voilà, il y en a où je sens qu'il y a... elles ne me conviennent pas en termes de diversité ou en termes d'espèces présentes. Et j'essaye par des pratiques de les améliorer, mais c'est quelque chose de long terme et on ne sait pas toujours où on va, c'est des essais. Est-ce que si je mets les animaux à ce moment-là, comme ci ou comme ça? Et de toute façon, en fait, le pâturage, peut-être pour le néophyte, ça paraît être quelque chose de relativement simple. Et c'est vrai que ça peut s'opérer d'une manière assez simple. On met des animaux sur une grande parcelle pendant 1 ou 2 mois. Quelque part, il y a un côté simple. Mais après, on peut s'exprimer et l'exprimer de manière beaucoup plus technique. Par exemple, moi, j'essaye de mettre les animaux qui soient très nombreux en fait, sur une courte période de temps à cet endroit-là, ce qui leur permet qu'ils ne choisissent pas, c'est-à-dire qu'ils mangent tout, il n'y a pas de refus, il y a un pâturage qu'on appelle total. Parce que si on met sur une semaine les mêmes animaux au même endroit, ben, finalement, le premier jour, ils vont manger tous les bonbons, le deuxième jour, ils vont manger tous les gâteaux, et le dernier jour, il n'y aura plus que les pelures de patates. Quoi. Alors que si on les bouge tous les jours, ils ont quelque chose de complet, de renouvelé, et ben, il y a un pâturage total. Et ce qui est très important aussi, dans le même ordre d'idée, c'est qu'il y a un très long temps de repos. C'est-à-dire qu'on ne revient pas au bout d'un mois, on ne revient pas au bout d'un mois et demi, on revient éventuellement plus tard, ce qui permet que les herbes ou les plantes ont eu le temps de se reposer, de se reprendre de l'énergie, de stocker de l'énergie dans les racines, de fleurir, voire de grainer. Donc il y a des graines, donc quelque part ça invite tout après l'entomofaune, c'est les insectes, ou toute la faune aussi à pouvoir y trouver son intérêt. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez complet. Et du coup, voilà, tout ça pour dire que le pâturage peut être très technique.
Voilà. Ce que vous décrivez, c'est un pâturage dit exclusif ?
Alors, effectivement, la catégorie dans laquelle j'ai présenté, c'est pâturage exclusif, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faucher cette prairie. Enfin, disons que je ne la fauche pas, c'est pour ça que je l'ai présenté dans cette catégorie-là. Et effectivement, il y avait une autre catégorie qui était fauche prioritaire, mais qui n'excluait pas le pâturage à un autre moment. Comme mes animaux sont toute l'année dehors et que j'ai... énormément de prairies, vu que c'est 100% de prairies dans mon parcellaire, on appelle ça. Ça fait que j'ai très peu besoin de faucher des parcelles, j'en fauche le moins possible, et économiquement, normalement, ça a un énorme intérêt, c'est-à-dire que ce qui coûte cher, c'est la mécanisation, c'est pas l'animal. L'animal, il rapporte de l'argent, et la mécanisation, elle en coûte. Donc plus on réduit cette part-là, plus on peut vivre de notre métier. Et donc, effectivement, moi, sur les 45 hectares, je fauche que 3 hectares et tout le reste est pâturé exclusivement. Voilà. Après, il y a d'autres critères qui rentrent en charge. C'est qu'il y a certaines parcelles qui, clairement, ne sont pas fauchables, à part à la faux, mais ça ne se fait plus vraiment.
Alors, ça concerne quelle surface, ces pâturages exclusifs ?
Alors, la prairie que j'ai présentée, elle est sur Saint-Laurent-en-Royans, au début de la route de l'Arps. Quand on quitte la dernière maison, on a encore une épingle, elle est au-dessus à droite, elle fait à peu près 2 hectares.
Dans ce principe des Prairies fleuries, c'était une collaboration avec des institutions de territoire, notamment le parc naturel régional du Vercors, et puis également la Chambre d'agriculture. Il y a aussi d'autres organismes affiliés à ce type d'initiative, comme l'INRAE, la LPO. Donc, vous avez eu affaire à tout ce monde ?
Tout à fait. En fait, moi, j'ai présenté ce concours-là parce que dans le monde agricole, quelque part, on n'a pas de reconnaissance ou peu de reconnaissance de notre métier. C'est un métier qui est, même si on est avec les animaux, du coup, solitaire, c'est entre guillemets, mais solitaire avec les humains, on va dire. Et du coup, c'est vrai que ça fait toujours du bien de pouvoir partager, et surtout avec des gens qui sont extérieurs au monde agricole. Et c'est quelque chose qui est assez rare, voilà, de voir des chercheurs, de voir des botanistes... des gens de la LPO, et de pouvoir partager et aussi qu'ils soient satisfaits de notre travail d'élevage. Et ça, c'est réconfortant, parce qu'on a plutôt tendance, par des médias ou par l'air du temps, à éventuellement être éventuellement pris à partie. En tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et là, de voir cette reconnaissance-là, c'est quelque chose qui est réconfortant et agréable. Quand on présente ce concours-là, il y a un jury qui vient. Il y avait deux journées pour visiter toutes les exploitations qui avaient présenté ce concours-là dans le Vercors. Et en gros, c'était pendant 2-3 heures, il y a un jury d'une dizaine de personnes. Donc il y avait le parc du Vercors, la LPO, une apicultrice, un conseiller en fourrage de la Chambre d'agriculture, un botaniste de l'INRAE, quelqu'un de la communauté de communes du rayon Vercors, le président du jury qui était Fernand Faure, et qui viennent. Donc on vient sur la parcelle, on tire une diagonale, et par tiers de parcelle, on note toutes les espèces qui sont remarquables, qui sont dans cette liste-là. Ils regardent aussi, enfin voilà, ils ont clairement un œil que moi je n'ai pas. Ils répertorient tout ça, ils regardent l'intérêt... savoir si une plante elle est précoce, c'est-à-dire est-ce qu'elle va pousser tôt au printemps, ou est-ce qu'elle est tardive, c'est-à-dire est-ce qu'elle va pousser tardivement, est-ce qu'elle garde de bonnes valeurs nutritionnelles, même si on ne la consomme pas tout de suite, si elle a un bon report sur pied, on appelle ça. Quelle est la diversité, est-ce qu'elle a un intérêt pour les abeilles, l'apicultrice, elle était là pour voir en termes voilà, pour les abeilles, en termes de présence de l'eau, en termes de qualité mellifère de ces plantes-là. La LPO était là pour voir par rapport notamment à la faune, et notamment l'avifaune, est-ce qu'il y a un bon milieu pour la biodiversité, pour les rapaces, pour les papillons aussi. Après, la communauté de communes, c'est plutôt dans une optique de paysagère, de voir si elle était bien intégrée dans son paysage, dans son milieu, est-ce qu'elle avait une bonne place par rapport à son environnement immédiat. La Chambre d'agriculture était là pour voir si mon système d'exploitation de cette prairie-là et de mon élevage en général était adapté, était dans une bonne conduite. Voilà, enfin, c'est quelque chose d'assez complet sur ce volet-là. Et ensuite, bah, ils délibèrent, ils donnent des notes, et ensuite il y a une appréciation, et c'est comparé vis-à-vis des autres qui ont présenté cette année-là dans le Vercors, en fonction de l'appréciation, en fonction de nos notes, et voilà.
Une dimension nationale dans ce prix, il est sous le coup du concours général agricole, une dimension outre parc du Vercors.
Eh bien, tout à fait. Là, pour l'instant, il y a eu, on va dire, que l'étape locale, le Vercors, du coup, où j'ai pu gagner dans la catégorie pâturage exclusif, et quelqu'un d'autre a gagné dans la catégorie fauche prioritaire. Et ensuite, du coup, nos deux noms et nos deux dossiers ont été envoyés à Paris, mais on n'a pas encore les résultats, pour candidater au concours général agricole au Salon de l'agriculture qui est fin février, début mars. Et si l'un de nous deux ou les deux sommes dans les trois premiers, dans ce cas-là, on sera invité à y aller pour recevoir le prix. Voilà, mais je n'ai pas encore la réponse, je ne peux pas, je peux rien vous dire.
Bon, en tout cas, on s'y est au courant.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de participer à ce concours ? Vous étiez donc, on le rappelle, 8 hein, du parc du Vercors en lice, justement, pour obtenir ce fameux sésame du concours Prairie Fleurie. Qu'est-ce qui a été stimulant pour vous ?
Je pense que c'est le côté rencontre et de confronter un peu son mode d'élevage, son système d'exploitation qui, pour le mien, déjà je suis en ovin et il y a d'autres éleveurs ovins dans le Royaume Vercors, mais globalement c'est plutôt un territoire bovin. Du coup, je trouvais ça intéressant déjà de faire valoir que les éleveurs ovins ont de bonnes pratiques, quoi. Enfin voilà, de nous faire connaître, de confronter un petit peu son mode d'exploitation à un regard extérieur composé de spécialistes. Je trouve ça intéressant, oui.
Vous avez eu un suivi régulier avec le parc naturel régional du Vercors. C'était un acteur un peu privilégié parmi la Chambre d'agriculture et les autres composantes de ce concours des pratiques agroécologiques.
Ici, oui, c'est par eux que c'est passé. Alors, je n'étais pas forcément en contact très long vis-à-vis du concours avec eux. Enfin, on a été en contact, hein. Mais je suis peut-être plus en contact avec eux parce que dans certaines zones, ce qui est le cas de cette prairie-là, parce qu'elle fait partie de la zone de l'ENS de Combe-Laval, mais j'ai aussi d'autres parcelles qui sont en zone Natura 2000 sur Choranche et Châtelut. Et on peut y souscrire sur ces prairies-là des MAEC, c'est des mesures agro-environnementales et climatiques. Et ça nous donne une aide supplémentaire sur ces surfaces-là en échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre d'herbicides, on n'a pas le droit de mettre d'engrais. Voilà, il y a plusieurs règles comme ça. Et du coup, vis-à-vis de ça, je suis plus en contact avec eux parce qu'on a visité les parcelles. Il y avait quelqu'un de la LPO aussi, on a discuté tout ça. On a une formation, enfin une journée collective à la fin du mois à ce sujet-là. Donc voilà, à la limite, je suis plus en contact avec eux pour ce sujet-là. Et c'est vrai que vis-à-vis de ces prairies, là où on vit en France actuellement, du coup, c'est un climat tempéré et on le voit dès qu'on abandonne des terres, ça part vers la forêt. L'environnement qui arrive, c'est la forêt si jamais l'humain n'y touche plus. Et en fait, ça fait 1000 ans, 2000 ans que l'homme est présent sur ces territoires avec une activité pastorale, d'élevage ou d'agricole, avec des milieux donc qui sont ouverts. Et il y a tout un tas d'espèces, de flore ou de faune, qui sont liées en fait à l'anthropisation du milieu, le côté élevage fait par l'homme qui fait des milieux ouverts, des prairies. Et le parc du Vercors et ces concours-là sont très intéressants parce qu'en fait, ils permettent de faire valoir que toutes ces espèces-là, en fait, c'est elles qui sont le plus menacées. C'est pas les espèces de forêt qui peuvent l'être aussi menacées, mais celles qui sont le plus menacées au niveau national, c'est les espèces des milieux ouverts. Et du coup, ce qui veut dire qu'elles n'existent que parce que l'homme est là et fait de l'élevage et qu'il y a des prairies. Et quelque part, ça permet d'avoir un soutien dans un caractère un peu écologiste ou de faire valoir que l'élevage a sa place pour la préservation de la biodiversité. Et c'est ça qui est assez agréable dans ce concours-là, c'est qu'on est directement mis avec des spécialistes qui nous le font tout à fait remarquer que c'est très important de continuer nos pratiques.
Il y a aussi une récompense, un prix qui est décerné outre la labellisation, on peut dire, de votre exploitation. Il y a d'autres valorisations pour vous ?
Je peux le faire valoir éventuellement que j'ai gagné ce prix-là dans le Vercors, c'est une possibilité. Hein. C'est pas pour ça que je l'ai fait en tout cas. Après, si on gagne au niveau concours du Salon de l'agriculture, à ce moment-là, on a ces feuilles d'argent ou de chêne, je ne sais plus. Enfin, voilà, ça qu'on peut éventuellement faire valoir. C'est une éventualité. Après, voilà, c'est vraiment pas pour ça que je l'ai fait. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas de difficulté pour l'instant à vendre ma viande. Donc, pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais voilà.
Mais oui, ça peut constituer un label un peu supplémentaire, valorisant.
Tout à fait, ouais, tout à fait.
Parlons, puisque nous sommes en votre présence en tant qu'éleveur ovin dans votre ferme, la ferme des Bataillons, Pierrion. C'est cette fièvre qui a décimé bon nombre de bêtes. Elle est arrivée au cours de cet été 2024. C'est assez disparate, j'ai l'impression, l'impact selon les exploitations. Comment vous avez vécu l'arrivée de cette fièvre catarrhale-ovine ?
Ça a été effectivement très dur pour tous les éleveurs. Les premiers animaux malades, ça a été début août. Moi, je suis un cas un peu particulier parce que j'ai de très bonnes relations avec mon vétérinaire. Et mon vétérinaire m'avait conseillé ce printemps de vacciner. Du coup, dès le printemps, j'ai vacciné mes animaux. Alors malheureusement, il y avait 3 vaccins disponibles. Et c'est l'un des 3 qui... Enfin, le seul des 3 qui était moins efficace que les autres. Mais il avait quand même sa part d'efficacité. Mais voilà, il y a eu beaucoup de doutes parce qu'on a quand même eu énormément d'animaux malades. La mortalité, j'ai perdu 3 brebis et 13 agneaux. Et vu ce que les voisins ont eu, si je n'avais pas vacciné, j'aurais perdu plus de 80 animaux. Ouais. Ça a été un mois d'août horrible pour tout le monde, mais pour moi aussi, avec des bêtes malades. Et puis c'est vraiment des symptômes qui sont très sévères. Voilà, donc ça a été très très dur. Économiquement, personnellement, je remercie que mon vétérinaire, encore une fois, que Ça ne m'a pas trop impacté économiquement, mais émotionnellement énormément en tout cas. Vis-à-vis du monde de l'élevage ou des collègues, c'est très dur. Et...
À votre avis, c'est dans finalement l'anticipation du traitement qui a un peu conditionné les différentes situations?
C'est dur à dire, parce qu'effectivement, même une fois que la maladie est arrivée, il y en a qui ont fait le choix de vacciner en cours d'épidémie, il y en a d'autres qui ont pas fait ce choix-là. Après, les vaccins ont très vite été en rupture de stock et c'était impossible de s'en procurer. Mais ceux qui ont réussi vraiment dès le début à y aller, a priori, ça a quand même limité les dégâts. Mmh. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Il y a les animaux, il y a l'environnement, il y a est-ce qu'on les rentre la nuit, est-ce qu'on les sort la journée, est-ce qu'ils sont tout le temps dehors, en fonction de l'altitude. Enfin, il y a 1000 facteurs. Du coup, c'est difficile d'en cibler un en particulier. Clairement, la vaccination, ça fait que les dégâts n'ont pas été les mêmes pour tout le monde, quoi.
Vous êtes dans le cas du plein air intégral, hein, c'est ça? Donc les animaux ne rentrent pas, ils étaient toujours dehors?
Tout à fait, donc les animaux sont tout le temps dehors. Au début, je faisais complètement confiance au vaccin que j'avais fait. Je me disais, il n'y a aucun problème, tout va bien se passer. Et quand j'ai vu que je commençais à avoir des morts, il y a pendant une journée, en 24 heures, j'ai eu 5 ou 6 morts. Et là, j'ai fait le choix, en fait, ils étaient à la montagne, tous les animaux. J'ai fait le choix de descendre tous les malades. Et du coup, j'ai rentré tous les malades en bâtiment. À la fois, c'est un virus, du coup, les soins ne sont pas très efficaces, hein, il n'y a pas d'antiviraux. Mais il y a quand même des soins à faire. On donnait des, pas pour tous, mais pour certains, pour les cas les plus sévères, on donnait des anti-inflammatoires et des antibiotiques, bien que ce soit un virus, c'est pour éviter les cas de surinfection. Mais en fait, il y a des œdèmes buccaux et de partout. Il y en a qui n'arrivaient plus à marcher, ils ne pouvaient plus boire. Du coup, c'était en plein été, donc il fallait leur donner à boire. Avec un pistolet drogueur, on appelle ça une espèce de grosse seringue, on les faisait boire 3 fois par jour. Ceux qui ne pouvaient pas se dépasser, tu leur amènes de l'herbe juste devant eux, tu les tries, tu prends la température. J'ai pris, je pense, 300 températures tous les jours pour les cas les plus sévères. Je suivais la température. Il y en a où c'était très long. Il y en a où ça a duré que 5 jours, la fièvre. Il y en a où ça a duré pendant 3 semaines, la fièvre, et qui sont encore vivants. Hein. Enfin, je veux dire, ils ont guéri. Du coup, voilà, c'est le fait de les avoir en bâtiment, ça permettait de ne pas y aller qu'une fois par jour, mais d'y aller. Par contre, émotionnellement, c'était très dur. Parce que mon troupeau qui allait bien, il était à la montagne et j'y allais une fois par jour. Et ceux qui étaient à la maison, j'allais les voir 10 fois par jour. Mais ils étaient tous malades. Ouais. Donc émotionnellement, c'est très dur de voir tous ces animaux qui sont dans cet état-là. Hein. Et après, on peut dire qu'on est éleveur et que quelque part, on amène des animaux à l'abattoir. Mais moi, c'est les agneaux qui vont à l'abattoir. Les brebis, elles sont là pour faire toute leur vie avec moi, quoi. Mmh. Et c'est les brebis, notamment, qui meurent ou qui sont malades, quoi. Et du coup, de voir ça, c'était très dur, ouais. J'ai perdu du coup 3 brebis sur 120, quelque chose comme ça. Et les agneaux, j'en ai perdu 13 sur une cinquantaine. Enfin, en gros, j'ai perdu 25% des agneaux mâles. Parce que clairement, cette maladie touche beaucoup plus les mâles que les femelles. Ça, tout le monde l'a observé. Hein. Tous les béliers, ont été les premiers morts, quoi.
Et le vaccin, il y a des effets secondaires ou des choses observables ou non?
En tout cas, pour ma part, non, il n'y a aucun effet secondaire. Et du coup, là, maintenant, et je pense que pour les années suivantes, c'est le cas. Parce que moi, je n'avais jamais fait aucun vaccin pour mes animaux. Là, j'ai vacciné donc pour la fièvre catarrhale ovine, le sérotype 8, celui qu'on a eu. Mais il y a le sérotype 3 qui arrive. J'ai vacciné mes bêtes pour le sérotype 3. Mes vaches, je les ai aussi vaccinées pour le sérotype 3. Et pour les vaches, je les ai aussi vaccinées pour une autre maladie qui arrive du sud-ouest de la France, qui est transmise par le même moucheron, un culicoïde. Qui s'appelle la MHE, la maladie hémorragique épizootique. Et du coup, j'ai aussi vacciné mes vaches là-dessus. Du coup, voilà. Et non, il n'y a pas d'effet secondaire. En tout cas, je n'en ai observé aucun, ni pour la viande, ni pour l'animal. Mais là, ouais, ça m'était arrivé des fois de donner des médicaments, un antibiotique ou quoi, à des animaux et de faire une injection. Mais alors là, maintenant, j'en ai fait énormément et bon, je m'en passerai bien. Mais pour les années à venir, malheureusement, va falloir faire attention à ça. Ouais.
Donc finalement, si on donne une certaine relation dans les exploitations du Royan, bon, certes c'est dramatique, 3 animaux perdus, mais par rapport à d'autres, c'est un moindre mal.
Effectivement, moi, comme je disais, économiquement, ça m'a coûté énormément de temps, d'argent en termes de médicaments et de vaccins, mais en termes d'animaux de perte directe, c'est limité. On verra après s'il y a eu des avortements ou pas. J'ai un agnelage au mois de décembre, on verra ce que ça donne. Mais même si ça a été très dur, je m'estime plus chanceux que effectivement les collègues aux alentours qui, voilà, les pertes, on va dire que c'est entre 30 et 50% du troupeau qui est mort, et ça se compte en centaines de bêtes. Ouais. Mmh. J'ai pas encore eu le. Juste certains, je le sais. Après, on risque de se recroiser bientôt à des réunions et on prendra un peu plus la température des collègues à ce moment-là. Ouais.
Et concernant la prise en charge des aides possibles, parce que c'est un certain budget, tous ces vaccins?
Eh ben oui, tout à fait, ouais. Pour celui qu'on a fait, le sérotype 8, celui qui était présent ici, il n'y a pas de prise en charge de la vaccination. Il y en a une autre pour le sérotype 3, celui qui va bientôt arriver. Après, pour les prises en charge, la ministre de l'Agriculture là, avait annoncé il y a une semaine qu'il y aurait une prise en charge, une petite prise en charge pour le sérotype 8. On ne sait pas encore du tout de quelle sera la mesure de l'enveloppe. La région nous a dit que ce serait à l'État de prendre ça en charge en priorité, mais pour l'instant, on n'a pas de son de cloche de leur part de savoir où ça ira. Et après, il y a des communautés de communes ou des départements qui se mobilisent. Le département de la Drôme, il y a des possibilités qui se mobilisent. Et par exemple, la communauté de communes de Valence-Romans-Aglo a fait une enveloppe de 200 000 euros pour aider les éleveurs de leur communauté de communes.
Bien, merci beaucoup Pierre Yon pour votre témoignage. Et puis bien, on se retrouvera vraisemblablement l'année prochaine pour savoir un petit peu plus sur la suite de votre candidature au concours général agricole de Paris pour ces prairies fleuries. Merci, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.